France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir d'un homme qui aime raconter des histoires et plus particulièrement l'histoire de son pays, ce qu'il fait avec brio dans son dernier livre, Le roman de la France, publié chez Talendier. Le journaliste et écrivain Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du quotidien Libération, est avec nous ce soir pour parler de cette histoire de Vercingétorix à Mirabeau, une histoire de la liberté, c'est le sous-titre de cet ouvrage. Il nous dira pourquoi, d'après lui, c'est ce qui caractérise le mieux notre pays. D'ailleurs, ne soyons pas dupes, ce livre d'histoire semble vouloir nous parler aussi du présent. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marion Lelay, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, que notre invité aura tout loisir de commenter. Juste avant 19h, comme tous les vendredis, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, les nouveaux bistrots de campagne dans lesquels on fait bien plus que boire un verre. C'est le cas au Guibras, situé à Saint-Sulpice-la-Forêt, en Ille-et-Vilaine. On ira sur place. À 19h20, au téléphone sonne, retour sur le rapport de la Cour des comptes commandé par le gouvernement après la crise des Gilets jaunes, un rapport sévère publié cette semaine. La Cour des comptes estime que la France n'en fait pas assez en matière de lutte contre la fraude fiscale. Alors cela représente des dizaines de milliards d'euros de manque à gagner pour le budget de l'État. En période de disette budgétaire, ce n'est pas un détail, on en parle au 01 45 24 7000.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Laurent Geoffrin.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Merci d'être
de
avec
nous
jusqu'à 19h. On parlera de l'actualité tout à l'heure, mais on va commencer par ce livre que vous avez publié aux éditions Talendier, Le roman de la France de Vercingétorix à Mirabeau. Pourquoi parler de roman pour ce qui a priori relève de l'histoire ?
C'est un roman vrai. Enfin, ça s'efforce de l'être en tout cas. L'idée c'est que je pense que pour enseigner l'histoire ou pour la transmettre, il faut passer par le récit. C'est important d'avoir les grandes tendances intellectuelles, économiques, sociales, etc. Mais c'est le décor et ce sont les acteurs qui font la pièce. Et donc il faut qu'il y ait un mécanisme d'identification, un peu comme dans de la fiction, sauf que ce sont des histoires vraies. Et donc je pars des personnages et de ce qui leur arrive. Et ensuite, j'essaye de remonter à des leçons plus générales. Mais je pense que pour intéresser le public, et je pense que c'est valable aussi à l'école, il faut raconter l'histoire des gens, c'est-à-dire l'histoire de Vercingétorix, ou l'histoire de gens totalement anonymes, ou l'histoire de héros négatifs ou de héros positifs, mais que tout ça passe par une chronologie et des péripéties avec des coups de théâtre, avec des chutes abyssales, avec des
trucs qui marquent quoi. Il faut qu'on
voit vivre les gens.
Vous dites j'ai voulu retrouver les émotions de mon enfance.
Et oui, parce
part.
Que les professeurs à mon époque, alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, moi je ne suis pas dans les classes, mais les professeurs à mon époque racontaient une histoire. Alors c'était une histoire en partie mythologique, elle était un peu trafiquée depuis un siècle, mais bon, au moins il vous racontait, je ne sais pas moi, l'histoire de la bataille d'Austerlitz, ou bien il vous racontait Saint-Louis sous son chêne, ou Louis XI avec ses cages de fer. Tout ça, c'était un peu des images d'Épinal, mais au moins on s'en souvient, je m'en souviens encore. Et je me souviens très bien aussi que quand la cloche sonnait, parce qu'à l'époque la cloche sonnait, je sais pas, à la fin de la classe, tout le monde sursautait en disant « mais c'est déjà fini ».
C'est
ce qui prouve bien que ça marquait les gens.
C'est ce que nous faisait Alain Decaux à la télé aussi, hein. C'est un peu ça.
Oui, bah alors lui c'était très court,
oui.
Moi il y a 500
ans. C'est pour dire que oui, c'est ça, on raconte. En tout cas,
je vais vous prendre un exemple. Oui. Si on veut transmettre ce qu'est la philosophie des Lumières, alors on va parler de John Locke, on va parler des philosophes anglais, ensuite de Montesquieu, Voltaire, et puis on va raconter les idées. Il y a la raison, il y a l'équilibre des pouvoirs, le respect du droit, etc. Mais si vous commencez par dire, voilà, on est le 13 octobre 1761, à Toulouse, et en bas de la maison des Calas, on trouve le fils Calas qui s'est pendu, ou qui est pendu. Et il y a une enquête qui s'ouvre. Les Calas sont des protestants, les enquêteurs sont catholiques, la rumeur de la ville est très catholique, et on accuse à tort le père Calas d'avoir tué son fils sous prétexte qu'il voulait se convertir au catholicisme. Et le père Calas passe en procès inique, et il est condamné à être supplicié sur la roue. C'est-à-dire qu'on lui brise les membres à coups de barre de fer, et puis au bout d'un certain temps, on lui tape sur la tête pour l'achever. Et puis on s'aperçoit que dans le procès, il y a eu beaucoup d'irrégularités, et le frère du supplicié, enfin du pendu plus exactement, qui s'est exilé en Suisse, rencontre Voltaire. Et Voltaire, qui est également exilé, regarde le dossier en détail, il prend fait et cause pour la famille Callas, il s'aperçoit que ce procès est absolument inique, et il remue ciel et terre pour faire réhabiliter toute la famille Callas. Et au bout de 5 ans, à force de libelles, d'écrits, de sollicitations auprès des puissants, auprès du roi, auprès des pouvoirs en général, il obtient finalement cette réhabilitation. Donc là, vous avez une histoire. Et vous comprenez ce que c'est que les Lumières. Les Lumières, ça consiste à dire, on ne peut pas condamner les gens sans preuve, il faut utiliser sa raison pour se faire une idée de ce qui s'est vraiment passé, et non pas se fonder sur des préjugés, notamment des préjugés religieux. C'est une chose qu'on pourrait reproduire aujourd'hui.
En fait,
et donc, on comprend ce que c'est que les Lumières, dans ce cas-là.
Absolument.
Ça va plus vite.
C'est un sacré livre, et on comprend une chose, surtout, mais enfin, on le savait déjà un petit peu, c'est que vous êtes un fou d'histoire.
Ah oui, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Mon père était éditeur d'histoire, donc j'ai vécu parmi les livres d'histoire.
C'est un livre d'histoire qui, pour mieux nous parler du présent aussi, Laurent Geoffrin, il ne faut pas se cacher.
Oui, parce que ça s'appelle le roman de la France. Il y a des gens qui disent, oui, mais vous comprenez, la France, ça fait nationaliste, tout ça. Et ce qui compte, c'est l'Europe, ou ce qui compte, c'est le monde. Il faut faire une histoire mondiale. Etc. Tout ça est très utile, et c'est très intéressant de faire des histoires européennes ou mondiales. Enfin, il se trouve que la République universelle d'Emmanuel Kant n'existe pas encore, et que la référence de la vie sociale et de la vie politique, c'est encore la nation. On peut le regretter, mais c'est comme ça. D'ailleurs, on voit bien en ce moment le mouvement social, c'est, on parle de la retraite des Français, on parle pas de la retraite des Européens, ou encore moins d'autres pays. Et parce que la nation est l'endroit où la solidarité sociale s'exerce le plus facilement.
C'est une façon de répondre à ceux qui sont nationalistes, entre guillemets, aussi.
Voilà, alors, mon idée, c'est qu'on ne peut pas laisser cette histoire nationale aux nationalistes. Autrement, c'est l'extrême droite qui s'en empare et qui vous raconte un récit complètement faux. Ou complètement biaisé, en tout cas. Et donc, je pense que si on est républicain, si on est progressiste, comme j'essaye de l'être...
Et même universaliste.
Et universaliste.
On peut très bien s'emparer de cette histoire nationale.
Il faut s'emparer de cette histoire pour pas qu'elle soit confisquée par des courants politiques extrêmes.
Alors, c'est un livre d'histoire avec quand même des chapitres, même des têtes de gondole très, très actuelles, parce que Clovis est Game of Thrones, djihad et croisade. Hein, non, mais ça, c'est,
votre
marque de fabrique, ça.
Il y a un récit dans chaque chapitre, il y a un petit résumé de chronologique au début, puis il y a un récit, je raconte l'histoire des gens, célèbres ou anonymes, et puis ensuite il y a un éditorial. Et dans l'éditorial, évidemment, je fais toujours le rapport entre les polémiques d'aujourd'hui et les faits du passé. Par exemple, on peut prendre l'exemple de...
Alors, il y a nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres qui étaient bien plus variés que ça. Il y a les racines chrétiennes.
Hein, voilà, les racines chrétiennes. Alors, c'est vrai qu'on on a des racines chrétiennes. Il suffit de faire 3 mètres en France, on tombe sur une rue Saint-Sauveur, une église, une cathédrale, etc. Bon, tout ça baigne la culture française. Mais on l'attribue à Clovis. C'est le baptême de la France. Clovis embrasse le culte de Clotilde, qui était son épouse Burgonde, et donc baptise la France. Alors, tout ça, d'abord, est faux, parce que la France était déjà baptisée, c'était gallo-romain, donc les chrétiens étaient déjà là. Ses ennemis étaient des chrétiens ariens, donc d'autres chrétiens, mais comme c'est l'Église catholique qui a tendance à écrire l'histoire, on ne parle pas des ariens. Et puis, surtout, la vraie histoire de la France, c'est qu'il y a d'autres religions, d'abord, qui se sont installées très tôt. Par exemple, les Juifs, ils sont venus dès le temps des Romains. Vous avez, au sud de la France, les musulmans sont installés, alors pas longtemps, mais enfin, ils ont joué un petit rôle, quand même. Et puis, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a eu aussi la Révolution française, et qu'il y a beaucoup d'églises en France, mais surtout les bâtiments publics, qui sont aussi nombreux que les églises, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Donc, nos racines ne sont pas seulement chrétiennes. Elles sont surtout, à mon avis, républicaines et universalistes, qui permettent d'englober la culture chrétienne et la culture des autres religions musulmanes, juives ou autres.
Et c'est une façon aussi d'apporter des nuances que vous faites tout au long de ce livre.
Oui, parce qu'on nous a enseigné, quand on était petit, une histoire un peu légendaire. Et donc, c'est souvent plus compliqué qu'on ne croit. Et puis, comme j'ai pris comme fil rouge une histoire de la liberté...
Oui, alors justement, pourquoi ?
Parce qu'on raconte en général...
Parce que notre devise, il y a 3 choses dedans.
Comment ?
Dans notre devise républicaine.
Ben, il y a la liberté, l'égalité,
oui,
la fraternité. Oui, mais c'est la liberté qui est première. Parce que s'il n'y a pas d'égalité, de toute façon, il n'y a pas de liberté. Quand on est dans la misère, on n'est pas libre. Donc la liberté suppose un minimum d'égalité. Pas l'égalitarisme complet, mais au moins de pouvoir vivre décemment de son travail, de manière à pouvoir exercer cette liberté, autrement on en est privé. Quant à la fraternité, c'est la condition d'existence des deux autres, c'est un concept plus sentimental qui permet de mettre du lien social dans la vie de tous les jours. Donc ces trois pans du triptyque sont liés intimement. Mais c'est la liberté qui est décisive. Et ça permet de revisiter tous les personnages. Parce que dans l'histoire classique, qui est une histoire plutôt conservatrice en général, on a tendance toujours à magnifier ceux qui ont contribué à la construction de l'État et à la grandeur du pays. Par exemple, Louis XIV. Par exemple,
le soleil totalitaire.
Louis XI. Alors, si vous prenez l'exemple de Louis XIV, alors Versailles, Molière, tout ça c'est formidable. L'art, la création, l'architecture, les palais, bon, tout ça existe encore aujourd'hui. Et Versailles est un endroit formidable. Seulement, si vous regardez vraiment ce qui a été le règne de Louis XIV, c'est un désastre en fait.
Et vous dites, pour ce qui est de la dette, il laissera à ses successeurs une dette à côté de laquelle l'actuel endettement de la France semble être une gêne passagère. Voilà.
Oui, il a engagé pour 3 ans ou 4 ans le budget de l'État.
C'est très actuel, votre histoire. Ah, puis, donc, il y a tous ces personnages. Il y a quelques femmes. Il y a évidemment Jeanne d'Arc. Puis, il y a Aliénor d'Aquitaine.
Ah, elle est formidable.
Alors, celle-là, vous avez comme un vieux béguin pour elle, hein, si je ne m'abuse.
Oui, alors, je ne sais pas très bien comment elle est, parce qu'il n'y a qu'un seul portrait, d'après ce que j'ai compris, qui est sur un vitrail et qui est très stylisé. Alors, c'est impossible de savoir. Enfin, si j'en crois les témoignages que j'ai pu lire dans les livres d'histoire, c'était une très belle femme. Mais ce n'est pas le point essentiel. Le point essentiel, c'est
qu'elle était libre.
Voilà, c'est que... Alors, c'était une reine. C'était plus facile que pour les bergères ou pour les couturières, j'entends bien. Mais c'est quand même une des premières reines. D'abord, elle a répudié son mari. Parce qu'elle trouvait que c'était un bonnet de nuit. C'était le roi de France, quand même. Elle avait une bonne place.
Elle est allée chercher un autre reine roi, après.
Après, elle a trouvé un autre roi, qui était le roi d'Angleterre. Donc, ça a créé, d'ailleurs, des guerres, qui ont duré bien avant la guerre de Cent Ans, mais du même genre, c'est-à-dire entre les Plantagenets et l'autre famille, dont le nom m'échappe, d'ailleurs. Enfin, bref. Mais surtout, Aliénor d'Aquitaine avait une cour, avec beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes, beaucoup de baladins, etc. Elle a ensuite mené sa vie à sa guise. C'était une femme qui a décidé pour elle-même, qui a créé son propre destin. Et c'est ça qui est le plus fascinant dans son histoire.
Voilà, alors c'est donc le roman de la France. Si on comprend bien ce que vous avez mis, c'est un premier tome.
Oui.
Ça va jusqu'à la Révolution. Second tome ira jusqu'où?
Je ne sais pas, je vous demande, est-ce qu'il faut s'arrêter à Mitterrand, à Hollande,
si vous commencez une
à Sarkozy, à Macron? C'est difficile, non?
Surtout quand on est journaliste, c'est difficile de choisir. C'est donc aux éditions Talendier,
voilà.
Et ça se lit très très facilement.
Ben, vous êtes très gentil.
Voilà,
merci.
Donc vous insistez sur la liberté, mais moi je voudrais quand même vous dire qu'en ce moment on parle surtout d'égalité dans ce pays. On l'a encore vu hier avec toutes ces manifestations. Et on va passer maintenant à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hila. On commence avec la cérémonie qui a eu lieu lundi aux Invalides.
De nos soldats sont tombés pour la France, pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes et pour la liberté du monde. Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice, je m'incline devant la douleur des familles.
C'était lundi dans la cour d'honneur des Invalides, l'hommage aux 13 soldats français qui ont péri dans un accident lors d'une opération militaire au Mali. Le jour même de cette cérémonie, un autre accident d'hélicoptère a coûté la vie à 3 sauveteurs partis au secours des victimes des inondations dans le sud-est de la France.
Je pense à leurs familles, à leurs enfants, et je pense aussi à cette famille de la sécurité civile à laquelle nous devons tant et que nous devons respecter et accompagner.
Hommage du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, alors que ces nouvelles inondations ont fait 7 morts en tout, selon un dernier bilan. Une question maintenant, comment mettre un maximum de monde dans la rue et le pays à l'arrêt avec un texte qui n'existe pas encore?
On est dans la rue pourquoi? Parce que le gouvernement est incapable de dire à n'importe qui combien tu vas toucher de ta retraite.
Trop imprécise la réforme des retraites, alors chacun s'interroge et s'inquiète.
C'est flou, il n'y a rien de dévoilé, c'est fait en catimini. Le peuple n'est pas content.
Beaucoup de monde dans les rues ce jeudi un peu partout en France.
Camarades me disent, on n'a jamais vu ça.
Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT.
Moi, j'écoute le président de la République. Il me semble qu'il a dit qu'on était à l'acte 2 et qu'il allait écouter plus les Français et la colère. J'espère que les fenêtres de l'Élysée sont ouvertes.
Emmanuel Macron est calme et déterminé, fait savoir l'Élysée, qui promet l'architecture générale de la réforme pour la semaine prochaine, alors que la grève était annoncée depuis 2 mois. Laurent Berger, de la CFDT.
Je crois qu'on est dans un pays qui préfère la logique d'affrontement à la logique de discussion.
Une réforme plus juste, voilà ce que dit l'exécutif qui plaide pour un système par points et pour l'abandon des régimes spéciaux, ce qui fait écho dans l'opinion.
Moi, je suis pour l'uniformisation des régimes de retraite. C'est vraiment des avantages acquis qui n'ont plus lieu d'être.
Reste que la réforme inquiète tous ceux qui sont concernés par ces régimes spéciaux.
Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un fonctionnaire de police qui, à 62 ans, courrait derrière des délinquants ?
Alors, à la veille de la grève, le ministre de l'Intérieur a écrit aux policiers pour tenter de les rassurer. Même sauf qui peut pour les enseignants qui s'inquiètent du montant de leur pension de retraite.
Il n'y aura pas de baisse des pensions des professeurs du fait de la réforme des retraites. Nous allons améliorer les rémunérations tout au long des prochaines années.
Pas sûr que les promesses de Jean-Michel Blanquer rassurent les professeurs, surtout qu'elles engagent ceux qui viendront après lui et que la majorité est bien décidée à passer à l'action.
Le fait de mettre en œuvre un engagement qui a été pris par le président de la République me semble, au fond, correspondre parfaitement à une logique démocratique à laquelle, j'en suis sûr, vous êtes attaché.
Édouard Philippe droit dans ses bottes à l'Assemblée alors que Jean-Luc Mélenchon se prend à rêver d'un grand soir anti-Macron.
Ah, puis c'est bien un peu que Macron voit qu'il y a du monde, ça va un peu le dégriser.
En attendant d'y voir plus clair sur cette réforme, la semaine prochaine, on a beaucoup marché ce jeudi.
Évidemment, deuxième classe complet, c'est pas possible.
C'est pas grave, on s'organisera, on fera comme des grands, quoi. J'espère que ça va durer.
Et qu'est-ce qu'on fait demain ? On reconduit ! Et qu'est-ce qu'on fait demain ?
Et encore merci à Céline Hila. Une semaine en France, toujours en compagnie du directeur de la rédaction de Libération, Laurent Geoffrin. Quels sont pour vous, Laurent Geoffrin, les enseignements de la journée d'hier ?
Ben, l'enseignement, c'est ce que tout le monde a dit, c'est que c'est un mouvement puissant et que le gouvernement va devoir en tenir compte. L'autre enseignement, à mon avis, c'est que on disait que le mouvement syndical était complètement en décadence. Décati, moribond, qu'il n'y avait plus d'adhérents, qu'il faisait des manifs sans manifestants, qu'il n'était plus écouté finalement, et que ce sont de nouvelles formes de lutte qui comptent, soit des luttes pour le climat, les ONG, ou des luttes plus violentes, comme le Extinction Rebellion, qui est une lutte pas violente, mais souvent illégale, ou bien carrément les Black Blocs, et donc on dit les syndicats, c'est des vieilles choses un peu dépassées, quoi. Or là, on s'aperçoit que sur un sujet, quand le sujet compte, et touche la vie des gens, vous avez quand même pas loin d'un million de personnes dans la rue, c'est beaucoup. Et vous constatez aussi que ce sont des manifestations pacifiques. C'est-à-dire que les syndicats qui sont rompus à ce genre de choses annoncent le parcours, ils ont un service d'ordre de chez eux qui prévient les débordements, ce qui fait que les casseurs ont été tenus à l'écart. Alors, ils étaient place de la République, il y a quand même eu des heurts, mais beaucoup moins que dans les manifestations précédentes. Et donc on s'aperçoit que la démocratie sociale fonctionne quand même. Et on s'aperçoit aussi que c'est quand même mieux quand ça fonctionne comme ça.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'exécutif ?
Non, parce qu'il est en face d'une protestation massive.
Mais
c'est une bonne nouvelle pour la démocratie sociale en général, parce que l'exécutif comprend, enfin, qu'il a besoin de ces corps intermédiaires dont il faisait fi auparavant. Et là, il s'aperçoit qu'il va bien falloir discuter. Alors, il pourra discuter avec la CFDT, qui demande que ça, mais il sera bien obligé de discuter aussi avec les autres, qui ont derrière eux beaucoup de grévistes et de manifestants, et donc qui ont récupéré une forme de légitimité.
Édouard Philippe, qui a dit tout à l'heure qu'il ne serait pas raisonnable de changer les règles des régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF en cours de partie, ça veut dire quoi ? C'est un changement de ton ? Il n'est plus tellement droit dans ses bottes ?
Il avait déjà laissé entendre qu'il y aurait des concessions, mais s'il dit ça, c'est exactement l'argument des grévistes, hein. Les gens disent, mais attendez, je suis rentré à la SNCF pour faire un métier quand même pas très facile. Je suis conducteur, je dors une fois sur deux loin de chez moi, avec des horaires décalés, c'est quand même fatigant, etc. Donc on m'a dit, vous partirez plus tôt. Et puis tout d'un coup, on change la règle au milieu. Il faut comprendre que les gens soient un peu déconcertés et furieux. Et en plus, on parlait d'histoire tout à l'heure. Depuis deux siècles, quand on dit « réforme », ça veut dire une amélioration. Quand on va réformer le temps de travail, ça veut dire qu'on le diminue. On passe de 48 heures à 44, 44 à 40, etc. Ou on va réformer l'éducation, c'est pour l'améliorer, c'est pour ouvrir plus de classes, pour que l'enseignement se passe mieux. Mais depuis 20 ans ou 25 ans, le mot a changé. Quand on dit réforme, c'est un sacrifice. Et c'est une régression, en fait. C'est un mot qui a été imposé par le patronat sur le thème c'est la crise, il y a du chômage, donc il faut faire des réformes pour essayer de faire repartir l'économie. C'est un discours qui a une certaine cohérence, mais il faut bien savoir par quoi ça se traduit pour les salariés, pour les gens plus modestes. Ça se traduit par une perte d'avantages à tous les coups, À chaque fois, on va dire, bah, vous aurez moins. Voilà, c'est le toujours moins. On se moquait dans le temps du toujours plus, mais là, c'est le toujours moins. C'est quand même moins drôle. Et donc, on peut comprendre que au bout de la 25e réforme, on dit la même chose. Là, vous aurez moins d'argent et vous travaillerez plus longtemps. Les gens, ils en ont ras-le-bol.
Et pourtant, Emmanuel Macron insiste sur le fait qu'il met en œuvre ce qu'il a promis.
Ça, c'est vrai.
C'est pas une surprise.
Mais,
hein.
Oui, mais il y a aussi, c'est la 5e République. Ça, c'est que Macron, il a eu 25%, il a été élu parfaitement légalement, il ne s'agit pas de contester son élection, mais il a été élu par 25% des gens, au départ. Et au deuxième tour, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de l'autre, qui était Marine Le Pen. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont adhéré à son programme. Ils l'ont fait comme un second choix. Et donc, les programmes des hommes politiques qui sont élus au premier tour et ensuite au deuxième par détestation de l'autre, ils sont moins populaires, évidemment, puisqu'au fond, Macron, il a toujours un socle, mais ce socle est égal à un quart de la population française. Et donc, c'est avec les trois quarts, en fait, ils sont contre lui.
Ça veut dire que c'est difficile de rester jupitérien dans des conditions pareilles ?
Ah ben c'est très difficile, oui. Alors, on peut le faire juridiquement, parce que les institutions l'autorisent. Mais du coup, la régulation se fait par la rue, par la protestation ou par la grève, et non pas par l'élection. Et dans la plupart des pays d'Europe, il y a un autre système. Alors, il a des inconvénients par ailleurs, mais c'est un système de coalition. C'est-à-dire que vous avez plusieurs partis qui sont minoritaires, qui s'assemblent, qui font un compromis entre eux. Mais une fois qu'ils prennent une décision, elle est appuyée sur l'assentiment, le consentement de gens beaucoup plus nombreux que dans le cas qui nous occupe aujourd'hui.
Là, la coalition, elle est à l'intérieur de la majorité, puisque c'est une majorité en même temps, avec, semble-t-il, des divergences de plus en plus profondes. Il y a quand même des défections en ce moment dans la majorité.
Oui, il y a des gens, parce que c'est un parti un peu attrape-tout, un peu ambigu, En Marche. Et donc, il y a des gens qui s'aperçoivent que c'est devenu un parti de droite. Donc, évidemment, ça a l'air refroidi un peu. Ça se comprend. Et puis vous avez les centristes. Bayrou, apparemment, il n'est pas content parce qu'il se sent maltraité par les autres. En plus, il a des ennuis judiciaires, donc ça le met de mauvaise humeur. Et puis, cette idéologie-là, qui était ambiguë, composite, depuis le début du quinquennat, elle s'est peu à peu éclaircie, mais on voit bien que le fléau de la balance penche à droite.
Et on voit bien que Emmanuel Macron est en train d'espérer toujours le même duel pour la prochaine fois avec Marine Le Pen. C'est un problème, ça ?
Je ne sais pas s'il l'espère, mais...
Il l'organise quand même.
C'est difficile de dire ça. C'est pas de sa faute si le parti LR est faible et si le parti socialiste est faible ou si les écolos font 11% au lieu de faire 20 ou je ne sais quoi. Il n'y est pour rien. Lui, il se présente aux élections, il essaye de faire des voix. Tout le monde fait ça. Donc, on peut pas dire qu'il soit le démiurge de tout ça. Ce serait un peu complotiste comme truc. Par contre, ça l'arrange. Évidemment. Parce que s'il a en face de lui un candidat, soit de la droite républicaine, soit de la gauche, de gouvernement, quel qu'il soit, c'est plus difficile pour lui, parce que il peut pas faire peur avec ça. Jusqu'ici, il a Marine Le Pen en face au deuxième tour, évidemment, il va dire, en partie à juste titre d'ailleurs, beaucoup de Français en tout cas, seraient furieux ou extrêmement inquiets si Marine Le Pen gagnait l'élection, ce qui lui facilitera la tâche.
Votre premier livre, Laurent Geoffrin, publié en 84, s'intitulait « La gauche en voie de disparition ». Je ne me suis pas trompé.
C'était un cri d'alarme.
35 ans plus tard, on y est toujours. Qui pour prendre le relais à gauche
Je ne pense pas que ce soit qui, pour l'instant, parce que c'est trop tôt. La désignation d'un candidat, elle aura lieu peut-être un an ou six mois avant l'élection. Il n'y aura jamais de vide, là, il y aura plutôt le trop-plein. Mais par contre, ce qui est urgent, ce sont les idées. Or, si vous regardez mettons, deux défis essentiels de la société contemporaine, des inégalités excessives ou des injustices sociales, tout le monde le dit, beaucoup de gens le disent, y compris dans les sphères dirigeantes. Premier point. Deuxième point, la transition énergétique qui nécessite des investissements publics et une maîtrise de l'économie. Ces deux thèmes-là, lutte contre les inégalités et maîtrise de l'économie, ce sont les thèmes les plus classiques de la gauche de gouvernement. Donc je pense qu'il y a un espace politique qui existe entre la gauche radicale et Macron, et que cet espace, pour l'instant, n'est pas occupé. Mais il y a là, je pense, une partie de l'opinion, une partie des Français et beaucoup de gens qui espèrent voir renaître quelque chose, je ne sais pas quoi, qui leur permettra d'avoir des porte-parole à l'échelle de la vie politique nationale.
Et cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a tendu la main à Yannick Jadot.
Oui, c'est vrai, il a changé d'avis, puisqu'avant il disait, Enfin, il tendait la main pour qu'on vienne chez lui. Alors maintenant, il tend la main pour faire un accord. Mais je suis pas sûr que Jadot soit d'accord, parce qu'ils ont inversé les rôles. Avant, c'était Mélenchon qui était devant, donc il disait ben, « on se réunit autour de moi ». Maintenant, c'est Jadot qui dit « maintenant, je suis devant, donc on se réunit autour de moi ». Je pense qu'il y a une part de théâtre là-dedans.
Alors, puisque je vous tiens, Laurent Geoffrin, puisque vous êtes là, un petit mot de Libération qui reste quand même le nec plus ultra pour les titres de Une. Ce matin, c'était « En marche
hein, », oui.
Avec photo des
manifs. C'était pas
mal. Bah oui, oui, c'était ça. Il y a une école Libé pour les titres.
Oui, il n'y a pas une école, c'est pas organisé, mais il y a une tradition, en tout cas, oui, il y a une tradition depuis toujours. C'est nous qui avons introduit les titres un peu sarcastique, drôle. Enfin, il y avait le Canard Enchaîné, mais qui est d'un autre genre. Mais c'est nous qui avons traité tout au jour le jour l'actualité en ayant cet esprit impertinent, ironique, sarcastique. Et donc, ça se traduit par des unes qui sont, on l'espère, parfois drôles, ou alors qui sont frappantes parce qu'elles jouent, parce qu'elles traduisent plus exactement une émotion.
Comment vous les préparez? Ça cogite dur, ça discute, c'est collectif,
ça discute,
cette affaire?
Oui, ça prend une demi-heure, une heure. Et c'est informel, il y a 5-6 personnes. On dit beaucoup de bêtises. Alors, il faut faire attention parce que parfois elles apparaissent en une. Mais chacun fait des propositions. Et donc, petit à petit, souvent ça vient par bribes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit, tiens, hier c'était, il n'y a qu'à mettre la grève en marche. Et puis, on a réfléchi. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi on met la grève? Il n'y a qu'à mettre en marche, comme c'est le slogan de Macron, enfin ce que tout le monde avait compris, évidemment. On met en marche devant les manifestants, comme ça inverse le slogan. C'est une chose que je pense qui a déjà été faite, mais ça marchait bien ce jour-là, en tout cas.
Voilà, ben, en tout cas, aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Dans un instant, Laurent Geoffrin, on va parler de vous. Figurez-vous, ben oui, c'est comme ça dans cette émission.
C'est intéressant.
Temps d'écouter Bruce Springsteen, Sundown.
Keeps me from
Bruce Springsteen, Sundown, choix musical de Chewbacca.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
En compagnie de Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du journal Libération. Je crois que vous êtes plus Beatles que Bruce Springsteen. Ou...
Je suis essentiellement Beatles.
Hein, oui. C'est ça,
je joue les Beatles, très mal, mais...
Vous jouez?
J'ai un orchestre.
Ah.
Qui s'appelle les Headless Chicken.
Et vous jouez?
De la guitare.
De la guitare.
D'accompagnement, parce que je suis très mauvais.
La prochaine fois, je viendrai avec votre guitare.
Moi, des gens
alors,
qui sont pas mauvais.
D'accord. Alors, Laurent Geoffrin, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore suffisamment, vous êtes né en 52 à Vincennes, c'est bien ça?
Oui.
Vous avez 67 ans. Vous avez grandi à quel endroit? En Seine-et-Marne ou en Indre-et-Loire? Parce que j'ai vu les deux.
Non, j'ai grandi à Nogent-sur-Marne.
À Nogent-sur-Marne.
Près de Vincennes, près de là où
Vincennes.
Je suis né.
D'ailleurs, vous en dites un mot dans votre livre. Hein.
Oui.
C'est là que vous avez écouté ces leçons d'histoire. Vous êtes ensuite allé au collège Stanislas.
Enfin, je suis d'abord allé au lycée de la République pendant 12 ans ou 15 ans. Et j'ai terminé au collège Stanislas. C'était après 68 et ma famille, qui était très conservatrice, m'a changé d'établissement pour me mettre au collège Stanislas. Et c'est là où je suis devenu de gauche parce qu'ils étaient tellement insupportables et droitiers que ça m'a un peu révulsé.
Et quand vous dites droitier, c'est vraiment droitier, puisque votre père, Jean-Pierre Mouchard, a été donc éditeur de livres d'histoire et même gestionnaire de fortune, proche de l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen.
Oui, il était ami de Jean-Marie Le Pen il y a longtemps. Et donc on a toujours eu des idées politiques absolument opposées.
Et vous avez donc appris à argumenter très tôt, c'est
oui,
ça
Oui, je
à
crois
vous
que ça
opposer,
m'a servi en fait. Ouais.
De cette façon-là.
Dès que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la vie publique, je me suis rendu compte que j'étais en désaccord total avec ce que pouvait raconter mon père, d'une part, et une partie de ma famille. Et donc, il a fallu discuter, argumenter, trouver des exemples, des raisonnements, et ça forme beaucoup l'esprit, ça.
En 68, vous aviez 16 ans, et oui. Vous étiez déjà membre du comité d'action lycéen, c'est ça?
Oui,
il y a eu
au
quoi,
lycée Lavoisier.
Après, il y a eu des études de quoi? Mais j'ai pas tout compris. C'est économie, histoire en même temps?
J'ai fait de l'économie, j'ai fait des sciences politiques, à Sciences Po. Et puis j'ai fait une école de journalisme devenir journaliste.
Le CFJ. Le
centre de formation à journaliste, qui est une bonne école.
Et puis vous avez été militant.
J'étais militant
pendant cette période d'étudiant.
De 71 à 79, jusqu'à ce que je devienne journaliste au fond, j'ai été militant du Parti Socialiste.
D'abord aux Jeunesses Socialistes.
Aux Jeunesses Socialistes, donc j'étais un des secrétaires nationaux.
Et puis, donc, vous êtes devenu journaliste. Au début, je crois que vous écriviez sous pseudo, puis
oui,
finalement,
c'est
il y a eu plusieurs pseudos.
Mon vrai nom n'est pas très saillant pour un journaliste, parce que mon vrai nom, c'est Mouchard. Et pour un journaliste, c'est pas bien. Enfin, je trouvais. Donc, j'ai pris le nom de ma station de métro.
Jules Geoffrin. Dans le 18e, c'est
évidemment,
ça.
Si j'avais habité Pont-de-Nivry, ça aurait été plus compliqué, mais...
À la sortie du CFJ, vous avez travaillé à l'AFP,
oui.
Laurent Geoffrin. Puis vous êtes, je passe un petit peu les détails, puis vous êtes entré à Libération.
Absolument, en 80.
Est-il vrai que c'était le 10 mai 80?
Oui, c'était le 10 mai 80, parce que le journal s'était arrêté, parce que Serge Julie avait décidé de renouveler complètement la formule et l'équipe. Et donc j'ai été embauché à cette occasion-là, et mon premier jour de travail, c'était le 10 mai 80. C'était pas très affriolant d'ailleurs, du point de vue journalistique, parce que le journal n'est pas sorti. Parce que il n'était pas prêt techniquement et donc
il n'est pas sorti le
il n'est pas sorti le lundi
le 11
il n'est pas sorti
le 11 mai
non.
81
non la une a été faite mais le journal n'a pas été distribué donc il est sorti le lendemain.
Alors il y a eu
mais
donc...
l'époque était formidable, c'était la victoire de la gauche.
C'était un jour historique, effectivement. Vous êtes entré à Libé en 81. En 88, vous avez rejoint le Nouvel Observateur. Mmh. Et là, c'était quoi, le début d'une navette? Je ne sais pas combien de fois vous avez fait l'aller-retour entre Libération et le Nouvel Observateur de l'Obs.
En France, il n'y a que deux journaux de gauche, en fait. Donc, voilà, ou alors je restais dans le même indéfiniment, ou alors je changeais. Mais pour changer, je ne pouvais aller que dans l'autre.
Maintenant, il y a des
mais c'est parce qu'on m'a proposé aussi, oui. Parce que c'est pas un caprice. À chaque fois, on m'a proposé, et en plus, à chaque fois, il a fallu que je me soumette à un vote. J'ai jamais savoir combien il y a de directeurs de rédaction qui ont fait ça. On a voté pour moi 5 fois.
En tout cas, il y a une vraie fidélité dans l'alternance chez vous.
Absolument.
On peut dire ça. Vous avez fait aussi de la télé, de la radio.
La radio, France Inter.
Ici,
oui.
À France Inter. On vous appelle souvent même pour débattre. C'est quoi la tendance du moment? C'est de débattre avec des éditorialistes de droite décomplexés. C'est un petit peu ça la tendance du moment en ce moment en France?
Depuis 5-6 ans avant, je débattais avec des libéraux. Alors, il me parlait de la baisse des impôts, il y a trop d'États, il y a trop de règlements, il y a trop de prélèvement obligatoire, on parlait de ça. Alors maintenant, on me parle du grand remplacement, et des immigrés, et de l'immigration, et des arabes, et des musulmans, et voilà.
D'où,
et on parle
d'où le
de
roman
ça.
De la France, hein.
Oui, voilà. Hein et de, oui, parce que c'est une réponse à ces interpellations permanentes. Ces gens-là sont obsédés par l'idée que la France va disparaître sous le flot des migrants, ce qui est une absurdité arithmétique déjà. Et en plus, ce qui est une manière de désigner des boucs émissaires à nos problèmes, alors que nos problèmes ne sont pas du tout liés à ça.
Alors Laurent Geoffrin, vous dirigez une rédaction, vous écrivez des éditoriaux, la lettre politique,
oui,
qui fait notre régal à un certain nombre ici les après-midi
gentil,
quand ça arrive à l'heure du goûter.
Non, mais
je vous le dis. vos livres, vous les écrivez à quel moment? Parce que les journées n'ont que 24 heures quand même.
J'écris pendant les vacances et les week-ends.
Face à la mer?
Oui, parce que j'ai une maison, pas très grande, mais une maison à Granville, dans la Manche, et c'est sur la plage. Et cette plage est une belle plage, avec une marée extrêmement puissante. La mer s'en va très loin, puis elle revient. Et donc, on est dans un endroit battu par les vents, et c'est très... ça me convient tout à fait pour écrire.
Et vous faites de la voile aussi?
Voilà. J'ai même un bateau, voyez-vous.
Qui s'appelle...
J'ai acheté avec mes économies de mes bouquins.
Le Plague Mort, c'est ça?
Voilà.
Voilà. Il paraît que vous avez un côté capitaine tranquille. Hein. Même par mauvais temps, rien ne vous inquiète. Vous êtes prêt à affronter toutes les tempêtes.
Oui, bah,
c'est utile.
C'est plan métaphorique ou c'est sur la mer? Sur la mer, il faut être un peu tranquille. Enfin, de temps en temps, il faut réagir très vite parce qu'il peut y avoir des situations dangereuses. Mais c'est un peu comme ça dans les journaux. Il faut avoir un peu de sang-froid quand il y a des tempêtes. Ça arrive dans les rédactions et il faut être un peu calme.
Voilà, capitaine calme. On va passer, comme tous les vendredis, aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. C'est une rubrique qui a lieu chaque semaine. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Notre rubrique positive. Ce soir, on va s'intéresser à ces cafés de campagne qui ont disparu et que certains voudraient rouvrir pour ramener de la vie dans les villages. Alors vous êtes allés voir ces nouveaux modèles de bistrots dits associatifs qui, eux, visiblement, attirent du monde. Ils commencent à essaimer en France et particulièrement en Bretagne.
À Saint-Sulpice-la-Forêt, par exemple, un tout petit bourg à une vingtaine de kilomètres de Rennes. Tous les commerces sont fermés, restait juste un tout petit troquet, sauf qu'il agonisait. Une bande de trentenaires l'a donc repris en 2016. Il le gère maintenant en collectif et ça cartonne en 3 ans. Déjà 5 emplois créés et ça pourrait même continuer.
Alors c'est quoi le secret?
Aller au-delà du petit ballon sur le comptoir. Le Guy Bras propose 1001 services ou activités. Il implique surtout les habitants, c'est très important. Si l'un d'entre eux, par exemple, a envie de proposer, je sais pas moi, un atelier de bricolage ou des cours de breton, eh bien banco, il peut même venir animer.
Direction Saint-Sulpice, on pousse la porte du Guy Bras pour voir à quoi ça ressemble et surtout pour comprendre pourquoi ça marche.
Salut, ça va? Un café?
Oui.
Hop.
Ils sont 5 à tenir le Guy Bras. Là, c'est Constance au percolateur.
Constance, faites-moi visiter.
Donc, le comptoir. Voilà, il y a le dépôt de pain juste là. Ici, vous avez la salle du restaurant avec le poêle qui marche. Un coin enfant, il y a des jeux, des livres. Et au fond, il y a l'épicerie avec donc les fruits et légumes des producteurs locaux.
Et là, au bout, là, c'est quoi?
Première nécessité, dentifrice, produits pour faire la vaisselle et compagnie. Voilà.
Deux petites mamies viennent de pousser la porte.
Bonjour, je fais un reportage sur le Guy Bras.
C'est très bien, ça donne un petit peu de vie dans qu'on n'a rien du tout ici.
Et vous venez y faire quoi, par exemple?
Moi, chercher mon pain, surtout tous les jours.
Qu'est-ce que vous êtes venu acheter, vous?
Des légumes qui viennent des communes voisines.
En fait, ici, c'est vos courses d'appoint, quoi.
Un peu plus, quand même, parce qu'on trouve pas mal de choses.
Quelle est la différence pour vous entre un café traditionnel et ici, ce type de café?
Les bistrots, on va dire, traditionnels, c'est pas mon truc.
Donc, 29,86.
Et voilà François.
On a repris le bar suite à un appel à projet de la mairie, puisque le commerce, ça faisait 10 ans qu'il se cassait la gueule. Donc nous, on est arrivé avec un nouveau projet, un petit troquet où on s'y sente bien, où c'est convivial, où on n'est pas obligé d'aller à la ville pour aller voir un concert, où on peut faire du tricot ensemble, on peut y venir pour un vernissage d'exposition, pour boire un coup, pour manger. Si l'activité a augmenté, c'est bien pour ça.
Ça va au-delà du zinc et du petit blanc.
Ah oui, bien sûr, ouais. Nous, on n'est pas juste un zinc.
Le petit bar PMU, tout simple, qui ne fait rien d'autre, n'a plus d'avenir, à votre avis, dans les campagnes?
C'est pas qu'il a plus d'avenir, c'est juste qu'il doit sans doute se réinventer. Les gens fument moins, les gens boivent moins, donc forcément, c'est comme ça qu'on les sauvera.
Constance.
Les centres-bourgs, ils sont morts pourquoi? Parce qu'on a construit des zones commerciales énormes aux entrées, et du coup, c'est sûr que plus on propose de choses différentes, plus on élargit les publics. Un petit bar en campagne, il peut pas tenir. venir.
Alors moi, je vais prendre un tataki de thon.
Ça marche.
Moi, je vais prendre un burger.
Qu'est-ce que vous voulez boire,
Rita ? 50 euros.
Ok.
Carrément à côté de la cheminée, en plus, agréable.
Il fait 3 dehors, là.
Réjeanne, une inconditionnelle du Guy Bras.
C'est bien au-delà d'un café, quoi.
Quelle différence ?
Oh, bah énorme. C'est-à-dire qu'avant, c'était un café, point, quoi. Un bar juste pour boire ou acheter ses tickets de bus, voilà, peu d'intérêt. Là, il y a tellement d'autres choses qui sont proposées en plus. Il y a des scènes ouvertes, il y a les concours de belote, il y a un troc de fringues, enfin...
C'est ça que vous aimez, en fait. Ça va au-delà du comptoir.
Oh, bah largement. C'est un lieu de rencontre, de partage.
Cuvée des Arts, Mad et Brune, on est sur un côte de Tongue.
Sans ce type d'endroit, dans un petit village qui n'a plus de commerce, on ne se voit plus, finalement.
Bah, si t'as pas de gamin à l'école ou si tu fais pas de foot, il reste pas grand-chose, quoi.
Le steak,
Pierre-Yves.
Merci.
Et vas-y, goûte. Il est super bon.
Et voilà Christian qui vient de s'asseoir à leur table.
Fidèle du Guy Bras ?
Absolument, ouais. Il y a tous les amis qu'on ne voyait plus qu'on revoit, donc maintenant, c'est l'idéal.
Ça veut dire qu'il y a tous les amis qu'on voyait plus, c'est-à-dire qu'ils venaient pas forcément au bar avant ?
Non. Ça va, Clovis ?
Ça va, ouais.
Cheeseburger aujourd'hui.
Ouais, j'aime pas ça.
Je peux te faire une salade.
Ouais, je veux bien une salade.
Et la salade, elle vient de chez Xavier, le maraîcher d'à côté.
Ça, c'est à moi, là, les céleri, les betteraves, les radis noirs, les potimarrons, les butternuts, les carottes.
Votre exploitation est à combien de kilomètres d'ici ?
À peine un kilomètre. C'est gratifiant de savoir que je nourris le village. Il n'y a pas mon visage dans l'assiette, mais presque.
Et ça, ça vous fait du bien ?
C'est pas que ça me fait du bien, c'est que ça donne du sens à un territoire, quoi. C'est tout le monde qui en profite, eux comme moi.
Ça va au-delà du débouché pour vous ?
Ah, bah oui, complètement. C'est du lien social.
Et sur tous les maillons de la chaîne, même pour Clovis en cuisine.
Je vais faire le lien entre Xavier que vous avez vu tout à l'heure, là, moi je vais apporter ma touche et puis le client il aura le final, quoi. L'expression de la fourche à la fourchette, quoi, mais c'est vraiment cette idée-là, quoi. C'est pour ça qu'on s'investit autant, c'est cet aspect humain, ouais, c'est clair, ouais. C'est sûr qu'on n'est pas dans le schéma zinc, jeu à gratter, un Ricard, et j'ai l'impression que les gens, ils sont en demande d'autre chose.
Le bistrot traditionnel, qui était là avant, ça vous donnait pas envie ?
Non, que des hommes au bar, à boire. Non, je ne serais pas venue toute seule, c'est sûr.
Vous, c'est pareil ?
Oui. Je pousse facilement la porte ici, il n'y a pas de souci. La musique le soir, le théâtre, je viens toute seule, sans problème. J'adore.
Et vous ?
Là, on est une table de filles, effectivement, avec enfants. C'était jamais possible dans l'ancienne formule, quoi.
Voilà les deux cafés. Hop là.
Des fois, on pousse les tables hein, pour se joindre entre mamans et on va faire toute une rangée de tables. C'est chouette.
Ça vous étonne que ça essaime un petit peu partout en France ?
Ah ben non, pas du tout.
C'est l'avenir.
On espère. On espère.
Merci pour ce reportage, Sandrine. Il est bien sympa, votre bistrot. Un commentaire, Laurent Geoffrin ?
Non, mais ça me frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. C'est qu'on dit, tout ça, ça a été normalisé par la mondialisation, et il n'y a plus d'originalité, il n'y a plus d'activité, tout ça. Or, dans beaucoup de ces villages, ou de ces petites villes, il y a toute une jeune génération qui a repris les choses en main et qui fait des choses nouvelles, tout en étant bien enracinée dans leur terroir.
Voilà, ça fait partie du récit national, ça.
Exactement.
Aussi. L'histoire des bistrots, hein. Vous allez nous faire ça un de ces jours. En attendant, le roman de la France, c'est chez Talendier. Un grand merci, Laurent
merci
Geoffrin, d'être venu nous voir ce soir à France Inter. Ravi. Dans quelques instants, le journal de 19h avec Sébastien Paour. Et ensuite, le téléphone sonne. Ce soir, on reviendra sur le rapport de la Cour des comptes publié cette semaine. Rapport sur la fraude fiscale. On se demandera notamment comment mieux lutter contre la fraude. Appelez-nous au 01 45 24 7000.